La pause philo.
La pause philo.
Un temps pour l'essentiel.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro prenant le temps pour l'essentiel aujourd'hui en découvrant un nouveau philosophe, Arthur Schopenhauer, à travers son lien très présent avec sa mère. Pour en parler, nous sommes avec Jean-Louis Siani, philosophe et essayiste. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Élodie.
Quel plaisir de vous retrouver Jean-Louis Siani. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « La mère et le philosophe » aux éditions Le Bord de l'eau. Alors je vous pose la question Jean-Louis, vous qui avez étudié le profil et la vie de nombreux philosophes, qui était Schopenhauer, mis à part ce philosophe allemand du 19e siècle, quel était le lien avec sa mère et en quoi ce lien a-t-il affecté sa pensée? Je crois savoir que la mère de Schopenhauer était très présente auprès de son fils.
Oui, et ça, en fait, c'est une relation forte et qui a fait surtout des étincelles. C'était une femme qui aimait la vie mondaine, qui aimait la discussion. Et on le voit déjà, c'est tout le contraire de son fils, qui a vécu comme un solitaire, un misanthrope, une sorte d'ermite en jabot, puisqu'il avait beaucoup d'argent, et qui est le père du pessimisme philosophique. Il nous arrive d'être pessimiste, Élodie, ça fait partie de notre condition, cela ne doit pas nous désarmer.
Donc lui incarne le pessimisme.
Voilà, c'est ça. Ils ont connu, la mère et le fils, une relation tumultueuse sur fond de désamour, d'incompréhension, de gros sous, d'histoire d'héritage, de gros sous, qui les a conduits à la rupture définitive et pendant 25 ans, Ils ne se verront plus. Et c'est peut-être dans ces rapports désastreux qu'il a trouvé cette philosophie tragique qu'il a composée, de son pessimisme et de sa misogynie.
Alors que sait-on de sa mère, de cette Johanna?
Alors quand elle épouse Henri Floris Schopenhauer, qui est le père, et qui est un riche négociant de Danzig, un homme d'affaires introduit à la cour, elle est très jeune, elle a 18 ans, et elle a presque 20 ans de moins que lui. Elle est brune aux yeux bleus et sans être belle, elle a du charme, elle a un côté spontané, juvénile, enjoué, léger. Et le père de Schopenhauer, là c'est l'autre versant, un tout autre profil. C'est un homme grand et fort, un Allemand, volontaire, un homme bizarre aussi, taciturne, dépressif. Et le couple est donc très mal assorti,
oui,
la femme s'ennuie, le mari voyage pour ses affaires, et bon, un fils quand même né de cette union bancale en 1788, et c'est Arthur Schopenhauer, apparemment il n'a pas été voulu, c'est un enfant, comme on dit aujourd'hui, non désiré.
Alors Schopenhauer est un enfant non désiré, mais son histoire familiale ne s'arrête pas là. Si je ne me trompe pas, Jean-Louis Siani, un drame vient marquer la famille.
Tout à fait, c'est la mort ou le suicide du père qui tombe ou se jette du toit quand Arthur Schopenhauer a 18 ans. Alors c'est un moment de bascule, si j'ose dire, à tous les sens du terme. La mère vend l'affaire de négoce, elle s'installe à Weimar, qui est un pôle artistique allemand. Et là, elle commence une nouvelle vie, elle organise des thés littéraires auxquels participe toute la ville et que Goethe, le grand Goethe, fréquente avec assiduité.
Elle a pas 40... Romancier et homme d'État allemand, on précise.
Tout à fait, merci Elodie. Et elle commence là, Johanna, Henriette, une seconde vie plus conforme à ses aspirations. Elle se met à écrire et en quelques années, elle devient même une romancière à succès. À l'inverse, le fils, lui, suit une piste opposée, une route opposée. Il devient maussade, amer, d'une ironie grinçante, carrément imbuvable. Elle ne supporte plus son humeur. Et un peu avant d'ailleurs le suicide, déjà, il disait « Ma mère donnait des soirées, tandis que mon père s'éteignait dans la solitude. » Et elle s'amusait pendant qu'il se débattait dans d'intolérables souffrances. Voilà, donc il y a cette tension chez lui... Avec sa mère, après le décès de son père.
Alors, en fait, vous voulez dire, Jean-Louis Siani, que Schopenhauer prend finalement le parti de son père défunt.
Tout à fait. Et il le dit d'ailleurs, il se vit comme une sorte de clone psychique, émotionnel. Il dit,
et de caractère aussi.
De caractère. Il dit d'ailleurs que chacun commence par s'observer et reconnaître ses penchants, ses défauts de caractère, ses faiblesses, s'il en a, et ses vertus s'il en a, et qu'il se reporte en arrière et qu'il pense à son père. Il ne manquera pas de retrouver en lui tous ses traits de caractère.
Alors comment ces éléments biographiques façonnent-ils la philosophie de Schopenhauer ?
Bon, disons qu'ils éclairent, cette œuvre. Hein, il n'y a pas une relation directe de cause à effet, parce qu'il ne suffit pas de se disputer avec sa maman pour être un génie. Or, c'est un génie, puisque à 30 ans, il a déjà écrit son œuvre. À l'âge où tous les philosophes sortent de la fac ou font encore leur gamme, lui, il a déjà écrit un bouquin de 1400 pages, « Le monde comme volonté et comme représentation », qui est un monument de la philosophie occidentale.
1400 pages, effectivement, c'est énorme. Jean-Louis Siani, serait-il possible que vous en traciez les grandes lignes ? Quelques mots seulement. Hein.
Je vais retenir deux idées forces. D'abord, c'est qu'il effectue une synthèse entre la philosophie idéaliste de Kant et puis l'hindouisme, notamment les Upanishads de hindous. Et le titre, d'ailleurs, résume bien le projet, hein, « Le monde comme représentation ». Ça veut dire que, avec Kant, poursuivant Kant, il dit « En fait, nous ne connaissons pas le monde en soi, mais nous ne connaissons que la représentation que nous ne faisons du monde. Le monde en soi, il nous reste inaccessible. » Et il pousse l'idée jusqu'au bout. Il dit « Le monde n'est que ma représentation. Il n'est rien d'autre que ça. Il n'y a pas des phénomènes et puis des choses en soi. Non, il n'y a que des représentations. Il n'y a que des fictions, finalement. Des perspectives qu'on lance.
Le monde est illusion, pourrait dire ça ?
On peut presque dire qu'il va jusque-là. Et d'ailleurs, dans la philosophie hindoue, hein, il y a ce monde qui est la manifestation
qui s'appelle Maya, je crois.
Voilà, tout à fait. Il n'y a pas de vérité cachée, hein, derrière. Ça, c'est le premier point. Mais il dit que le monde est aussi ma volonté. Hein, le monde comme représentation et comme volonté. Donc, il y a une dimension plus subjective, peut-être, que chez Kant. C'est celle de l'expérience intérieure, hein, c'est-à-dire de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent immédiatement. Et c'est la volonté. La volonté, il ne faut pas la prendre simplement comme la possibilité de choisir, de dire « je veux ça » ou « je veux ceci » ou « je veux cela ». C'est un vouloir vivre, c'est-à-dire c'est une force, une sorte d'élan comme ça qui marque le retour de la vie et du désir dans la philosophie et du corps dans la philosophie. Donc la réalité du monde, ce n'est pas simplement ma représentation, donc ce n'est pas une représentation, c'est un désir. Et le vouloir vivre... Ben, il anticipe un peu sur ce que Freud va appeler la pulsion. Hein. Comme ça, on comprend mieux ce concept, peut-être.
Alors, éclairez-moi, Jean-Louis Siani. On a commencé cette émission en disant que Schopenhauer était un philosophe pessimiste. Il était le philosophe du pessimisme.
Eh bien, pourquoi il serait le philosophe du pessimisme ? Parce que dès que... Et là, on est proche aussi de l'hindouisme. Hein. D'après ce qu'il explique, il dit « Dès que le vouloir vivre rencontre un obstacle, et il en rencontre constamment, alors la souffrance advient. » Hein, tous nos désirs ne se réalisent pas. Et toute notre puissance de vie ne s'accomplit pas immédiatement. Il y a des obstacles. Et partout, on voit le désir arrêté, en lutte, et donc à l'état de souffrance. Et pour lui, voilà, le fond de toute vie, c'est la souffrance. Hein. C'est un peu le message qui est importé de la sagesse hindoue, que Schopenhauer diffuse quand même dans l'Europe romantique. Hein. Puis c'est le milieu du... début et milieu du 19e siècle.
D'accord, donc d'où le pessimisme de Schopenhauer.
Voilà, et c'est là qu'on voit qu'on ne peut pas ignorer la résonance dans cette théorie d'une vie qui est non désirée, non voulue, hein, sa propre vie. Hein. Pour Schopenhauer, ce monde n'est pas le meilleur des mondes possibles, c'est même, il n'en existe pas de pire que celui-ci, c'est ce qu'on a appelé le pessimisme métaphysique. Voilà. Et donc après, il a réglé toute sa vie sur cette vision du monde et des femmes. Hein. Donc il a fini comme un rentier qui passait d'un cigare à un autre, qui promenait son chien et qui poursuivait ses soubrettes en disant « les femmes n'ont jamais voulu de moi ». Un sort un peu triste.
Bien, exactement. On arrive au terme de cette émission, Jean-Louis Siani. La philosophie de Schopenhauer n'est pas très gaie. Peut-on finir sur une note positive, histoire d'apporter quelques rayons de soleil dans le cœur et la pensée de nos auditeurs ?
Oui, tout à fait. Moi, je dirais qu'il ne faut pas désespérer. On ne peut pas désespérer de tout, puisque lui-même, qui était un grand désespéré, eh bien, à la fin de sa vie, il est rattrapé par la gloire. Hein. On vient de toute l'Europe pour rencontrer ce philosophe solitaire. On s'arrache son livre. C'est une sorte de revanche sur sa mère, je dirais, parce qu'aujourd'hui, qui connaît et qui se souvient de Johanna Schopenhauer ?
Personne. Merci beaucoup Jean-Louis Siani pour cet éclairage passionnant sur Arthur Schopenhauer. Vous pouvez retrouver Schopenhauer et bien d'autres philosophes dans La mer et le philosophe aux éditions Le Bordelot de Jean-Louis Siani. Excellente journée sur Radio Aviva.
La pause philo.
La pause philo.
Un temps pour l'essentiel.